Il est 6h21, nous sommes avec la journaliste et écrivaine Marie-France Etchegouin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans le 5-7 de France Inter. Alors que le projet de loi sur l'immigration arrive ce matin au Conseil des ministres, vous publiez « J'apprends le français » aux éditions Lattès, où vous racontez votre expérience dans un centre d'hébergement en bas de chez vous, à Paris, où vous êtes bénévole depuis plusieurs mois. Vous donnez des cours de français aux demandeurs d'asile. Alors votre livre commence par une présentation. Je suis une mère, je suis une fille, je suis une parisienne, une journaliste, je suis qui je suis. Et vous vous adressez aux migrants. Vous êtes né dans un monde où dire « je » est un risque, parfois un combat. Comment être quand on a tout perdu? Est-ce que c'est important de parler à la première personne, Marie-France Etchegouin?
De parler à la première personne dans ce livre, oui, c'est ce que j'ai voulu raconter aussi dans ce livre, c'est un échange. Un échange entre les migrants que j'ai rencontrés et entre ceux que je leur apporte et ce qu'ils m'apportent. C'est ça que j'ai voulu mettre en valeur. Et non pas pour me glorifier, parce que ce que je fais n'a rien d'héroïque. Et surtout, il y a des milliers de Français qui font ça un peu partout. Toute la France n'est pas Gérard Collomb. Il y a des milliers d'associations et même de particuliers qui sont là et qui font des choses.
Ce sont des hommes, de jeunes adultes pour la plupart à qui vous enseignez le français. Ils sont coupés de leur pays aussi, et puis aussi, vous le dites, du pouvoir du dire. Vous donnez des cours deux fois par semaine et vous vous répétez beaucoup, c'est ce que vous racontez. Il faut apprendre les mots du quotidien, le vouvoiement aussi et puis le lexique familial. Ça, c'est parfois douloureux. Vous en avez fait l'expérience?
Oui, c'est d'ailleurs ce qui m'a incité à écrire ce livre. Un jour, j'ai expliqué les mots du vocabulaire familial, évidemment, qui sont pour nous, finalement, des mots assez banals. Et j'en arrive au mot « enfant ». Et ce jour-là, le groupe de migrants, aucun ne parlait anglais, parce que parfois l'anglais que je baragouine un peu vient au secours de nos échanges. Et un seul comprenait. Il m'avait dit qu'il avait deux enfants. Et donc je dis pour expliquer, voilà, moi Marie, j'ai trois enfants. Ibrahim, lui, a deux enfants. Et cet Ibrahim dit, mais non, je n'ai pas d'enfants. Et je lui dis, mais je croyais qu'avec votre femme. Mais non, je n'ai pas de femme. Et à la fin du cours, je vais le trouver, il vient me voir et il me dit « mes enfants sont morts et ma femme aussi ». Et j'apprends en fait qu'ils ont été massacrés dans un camp au Soudan, mais à peine un mois auparavant. Et pendant tout ce mois, cet homme est venu à ses cours pour apprendre. Et je me suis dit « mais je lui apprends à dire triste, et triste ça ne s'accorde pas au féminin, c'est la même chose au masculin, je lui apprends à dire enfant, papa, maman ». Son courage m'a paru extraordinaire. C'est comme ça pour tous ceux qui viennent.
Vous parlez d'Omar, par exemple, qui vous montre ses cicatrices en riant. Vous êtes marqué d'ailleurs souvent par leur sourire, vous dites « la politesse de l'espoir ».
Oui, c'est-à-dire que jamais je ne les entends se plaindre. Ils disent, quand ils sont vraiment très très mal, ils disent juste « j'ai mal à la tête ». Ils disent aussi toujours « c'est pas grave ». Et ils racontent finalement, ils ne racontent jamais spontanément leur trajet, qui est souvent très douloureux et très pénible.
Il y en a un qui vient d'Afghanistan quasiment à pied.
Oui, c'est petit à petit que ces échanges se nouent. Et c'est vrai que dans mon livre, je raconte le parcours. Enfin, tout se passe que j'ai voulu raconter entre les quatre murs d'une classe. C'est-à-dire que dans cette classe, en fait, c'est comme si défilait aussi une partie du monde qu'on ne veut pas voir souvent. Et là, ce que j'ai en face de moi, ce ne sont plus des chiffres, c'est plus des statistiques, mais ce sont des êtres humains, évidemment, et c'est ça que j'ai voulu raconter. Donc je raconte le trajet aussi, toujours à travers mes cours de langue, de 4-5 demandeurs d'asile qui sont particulièrement, qui m'ont marqué, mais ils sont très nombreux, j'ai pas eu la place de raconter tous.
Shahrokh Khan, Abdouledou, Ibrahim Le Sage, ils viennent du Darfour, du Soudan, d'Afghanistan, là-bas, les petites histoires qui font la grande, finalement, l'histoire collective. On sent beaucoup de tendresse, Marie-France Etchegouin, dans ces pages, on sent aussi beaucoup de colère contre cette France qui accueille moins que ses voisines, l'Allemagne et l'Italie par exemple.
Oui, la France est le pays qui a le moins accueilli ces dernières années, alors qu'avant c'était, elle a été longtemps championne du droit d'asile, sans même remonter à des siècles. Et aujourd'hui, les demandeurs d'asile, c'est 7% des demandeurs d'asile qui arrivent en Europe, qui viennent en France. pour cette raison, je trouve la politique d'Emmanuel Macron d'un cynisme assez sidérant. D'un côté, il demande à son ministre de l'Intérieur de concocter une loi qui porte de graves atteintes aux droits de l'homme, les plus graves qu'on ait jamais vues depuis longtemps.
Raccourcir les délais d'asile et allonger ceux de la rétention.
Oui, et de l'autre côté, il envoie un jeune député nous expliquer que la France va formidablement accueillir les réfugiés. Mais c'est... On n'est même plus dans le « en même temps », c'est la contradiction absolue pour pas dire le mensonge, parce que ce qui est assez peu relevé dans cette loi, si elle s'applique, la moitié des gens qui viennent dans mon cours, qui s'accrochent aux Français comme à une dernière bouée, seront expulsés. Tout simplement, pourquoi ils seront expulsés? Non pas parce qu'ils viennent d'un pays moins dangereux, non pas parce qu'ils ont moins souffert, non pas parce qu'ils risquent d'être à nouveau torturés, emprisonnés s'ils sont expulsés, mais simplement parce qu'ils ont eu la malchance de laisser leurs empreintes dans un autre pays d'Europe quand ils sont arrivés sur le continent. Alors évidemment, c'est au nom d'un règlement de Dublin qui est complètement kafkaïen, qui est complètement obsolète, puisque la plupart des demandeurs d'asile laissent leurs empreintes aux pays frontières de l'Europe.
Il y a les Dubliné Italie, Dubliné Hongrie, c'est un mot, vous dites, un néologisme qui va bientôt faire partie du dictionnaire qui est dans le quotidien de ces migrants. Vous parliez du député tout à l'heure, Aurélien Taché, il y a ce volet intégration avec plus d'heures de cours pour les en français, notamment pour
bien
ces
sûr,
demandeurs d'asile.
Et ça, c'est très très important, évidemment, que aujourd'hui, un demandeur d'asile ne peut pas avoir de cours de français donné, en tout cas par les pouvoirs publics, avant d'avoir son statut et d'avoir ses titres de séjour.
Donc ça, c'est bien.
Et qui fait... Oui, ça, c'est bien. Donc évidemment, mais j'espère simplement que les propositions d'Aurélien Taché, qui sont excellentes pour la plupart, ne sont pas simplement un papier de soie pour emballer la matraque de Gérard Collomb. De toute façon, il y a une partie du public que le gouvernement s'acharne à vouloir expulser aujourd'hui, avec une loi qui non seulement est dangereuse, mais à mon avis inefficace, parce qu'ils reviendront.
Marie-France Etchegouin, si vous le voulez bien, pour terminer, je voulais reprendre ces mots de Prévert que vous citez, page 90. Kabyle de la Chapelle, cobaye des colonies, brûleur des grandes ordures de la ville de Paris, tunisien de Grenelle, polaque du Marais, esclave noir de Fréjus, enfant du Sénégal. Étranges étrangers, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivez. Marie-France Etchegouin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
J'apprends le français, ça sort aux éditions Lattès aujourd'hui même. Ça tombe bien, le jour de la réforme, de la présentation de la réforme au Conseil des ministres. Au revoir. Bonne journée.
Merci.